vous dire pourquoi j'aime la rentrée littéraire. J'aime la rentrée littéraire parce que tout le monde s'en fout sur le papier et pourtant on en débat volontiers. Je l'aime parce que c'est une exception française qui s'est un petit peu exportée. J'aime la rentrée littéraire parce qu'on vient m'en parler même quand je suis très très loin de Saint-Germain-des-Prés, parce qu'on a lu dans le passé un auteur qui refait l'actualité, parce qu'on est tombé sur une émission où l'on parlait d'une histoire qui nous plaît, parce qu'on me donne une envie, un verdict, un conseil, parce qu'on m'engueule d'avoir parlé de lui et pas d'elle, parce qu'on entend toujours les mêmes. J'aime la rentrée littéraire parce qu'il y a beaucoup de prix, mais deux, trois qui font plus de bruit, si bien que les gens se demandent, même s'ils en ont rien à secouer, avec la perfidie qui force le respect, qui le mérite et non pas qui l'aura. J'aime la rentrée littéraire parce que ça gueule, parce que ça cogne, parce que ça pique, tout en restant très bien élevé. On est quand même entre gens cultivés. Je l'aime pour celles et ceux qui sont convaincus de faire et de défaire les bonnes réputations. Je l'aime pour ses passions, pour ses partis pris, pour ses potins, pour ses piteuses polémiques qui n'étonnent personne et semblent ne servir à rien, mais qui font qu'on en parle encore et toujours en des termes trop élogieux ou beaucoup trop méchants. On parle de romans, d'essais et de pamphlets, de livres illustrés et de bandes dessinées. J'aime la rentrée littéraire parce qu'elle fait toujours l'actualité, et tant que les livres feront l'actualité, vous savez quoi, on sera sauvés.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui nous parle de littérature, on sent passion. Son premier roman, Terre Sainte, paru il y a 7 ans, a fait de lui l'un des écrivains sénégalais les plus prometteurs de sa génération. En lice pour les prix Goncourt, Médicis, Femina et Renaudot, le Grand Chelem. Son nouveau livre, La plus secrète mémoire des hommes, est à la fois l'événement et la surprise de cette rentrée d'automne. C'est l'histoire d'un écrivain qui se lance sur les traces d'un auteur disparu et dont l'unique ouvrage a marqué l'histoire littéraire française et africaine, virtuose, sensuel, assez vertigineux. Bonjour Mohamed Mbougarsar.
Bonjour Augustin Trapenard.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Dans quelle mesure la littérature est-elle encore et toujours le théâtre de passion?
Alors, je pense qu'elle est le théâtre de passion simplement parce qu'elle est mêlée à notre vie la plus quotidienne. C'est une chose que j'ai tenté de dire dans ce roman, que la littérature n'était pas séparée de la vie, qu'elle n'était pas au-dessus de la vie, qu'elle n'était pas à côté de la vie, mais qu'elle était à l'intérieur de la vie même. Elle est sa veine la plus centrale, je pense. Et c'est pour ça qu'elle doit être passionnée, qu'elle est un théâtre de passion, de combat, de lutte, d'amour, d'émotions extrêmement fortes.
Mais le constat que vous semblez faire quand même, c'est qu'il n'existe plus qu'une minorité dont font partie les écrivains pour penser que la littérature est importante. Qu'est-ce que ça dit de ce que c'est que d'être écrivain aujourd'hui?
Alors, c'est être à la fois magnifique et absolument misérable. Je crois que c'est être à la fois le dépositaire d'une longue histoire prestigieuse qui impressionne encore un peu, au moins symboliquement, mais c'est être aussi quelqu'un qui détient un capital dont, objectivement, je crois que la plupart des concitoyens se foutent totalement, en réalité. C'est-à-dire que la lecture aujourd'hui garde un prestige et on conserve un groupe comme ça d'aficionados, mais je ne suis pas certain aujourd'hui qu'elle ait encore une valeur extrêmement importante. En tout cas, d'autres catégories de savoir, de prestige. La concurrence est tant mieux, d'une certaine manière, mais cela nous renforce d'une certaine manière aussi, comme écrivain, dans notre enracinement, précisément, littéraire. De se dire que nous sommes peut-être encore des happy few, que les lecteurs constituent un groupe de happy few, et que nous sommes très heureux ainsi.
Pourtant, je sais que vous hésitez parfois à vous définir comme tel, comme écrivain.
Oui, c'est par coquetterie, non, je plaisante, mais j'essaie simplement de me dire que l'idée que je me fais des grands écrivains est tellement haute que je ne m'imagine pas réellement faire le même travail que...
Tu te crois écrivain, l'homme en toi meurt. C'est ce que se voit rétorquer votre héros, lui aussi romancier. Se croire écrivain, qu'est-ce que ça voudrait dire, Mohamed Mbougarsar? Qu'est-ce que ça a pu vouloir dire pour vous?
C'est précisément poser comme écrivain, c'est porter des masques et en jouer énormément. C'est d'une certaine manière renoncer au travail de silence, de solitude, qui est le travail profond, essentiel de l'écriture. À partir du moment où l'on joue, où l'on est dans l'écran de fumée, dans le discours, plus que dans le travail d'écriture, et qu'on est sans œuvre, ou que notre seule œuvre est hors du livre, qu'elle est une œuvre de discours, une œuvre de parade, une œuvre de fumée, là, on joue à être un écrivain et on n'a pas, je pense précisément, l'œuvre. Ce qui ne veut pas dire qu'en étant même un véritable écrivain, on n'en joue pas. Donc c'est extrêmement subtil.
C'est magnifique. Ça veut dire que vous écrivez pour ressusciter l'homme qui est en vous ?
Pour le chercher. Et pour le ressusciter, ça c'est peut-être plus compliqué. Mais le chercher, je pense que c'est le plus important aujourd'hui. Essayer de trouver l'homme en soi, je pense que c'est la grande question de toutes les manières de la littérature. C'est de nous pousser, tous écrivains comme lecteurs, ce qui est parfois une seule et même chose, à nous demander ce que signifie être des êtres humains et nous demander quel est l'homme avec un grand H en nous. Je ne veux pas du tout exclure, évidemment, les femmes.
Dans l'espoir, Mohamed Mougarsar, de commettre un jour un grand livre, peut-être.
Oui, ça c'est un fantasme. Et comme fantasme, il doit peut-être rester inatteignable, très loin, et nous pousser jusqu'à nos dernières limites.
Qu'est-ce que ce serait le grand livre ?
C'est peut-être précisément celui à la fin duquel on se dirait « voilà l'homme en moi, je l'ai trouvé, et je l'ai trouvé aussi dans une langue, je l'ai trouvé en allant au fond d'une langue et d'une tentative de creuser véritablement à l'intérieur d'une langue et aussi de la condition humaine. Mais ce grand livre, je pense, doit toujours rester un fantasme. Il doit toujours être à venir, d'une certaine manière.
Et puis un livre, quand même, à vous lire, dans la grande lignée de Flaubert qui ne parlerait de rien, et dans lequel, pourtant, tout y serait. Un livre qui n'aurait pas de sujet, je vous cite.
Oui, j'ai cette phrase de Flaubert sur un livre qui tiendrait par la seule langue, qui tiendrait comme une planète dans l'univers,
c'est dans
sans
une
être
lettre.
Soutenu par rien.
C'est ce que je veux écrire, ce que je trouve beau, c'est un livre sur rien.
Exactement. Évidemment, comme chez Flaubert, comme toujours chez Flaubert, les lettres sont peut-être parfois plus intéressantes que les romans. Oui, mais à la différence de Flaubert, je ne pense pas que ça tienne seulement sur une langue. Je pense que ça dépasse la simple question du style et qu'il y a autre chose de plus profond. Ne me demandez pas ce qu'est cette autre chose, je ne sais pas, mais je crois que ça va au-delà de la simple langue ou cela de la simple forme. Mais je pense que j'ai ce même rêve-là d'une œuvre qui ne serait pas soutenue, par exemple, par un seul contexte ou qui ne serait pas soutenue par une origine, qui n'aurait pas besoin pour être comprise, pour être lue, pour être appréciée, d'être rattachée à quelque chose de très précis et qui tiendrait par sa seule logique interne, qui est celle de la littérature plus que de la langue.
C'est
évidemment
très beau.
On ne sait pas ce que c'est la littérature, mais je le dis ainsi.
Mais en ce qui vous concerne, ce que vous dites dans ce livre, c'est qu'un grand livre, ce serait aussi celui qui dispenserait son auteur d'en faire d'autres, un livre qui libérerait son auteur de la littérature.
Oui.
C'est votre ambition, ça, Mohamed Mougarsar ?
Ce serait peut-être l'un de mes rêves, oui. C'est-à-dire de faire un livre à la fin duquel je pourrais me reposer, parce que la littérature est aussi une sorte de hantise terrible, difficile parfois.
Elle peut emprisonner,
à supporter.
Elle peut enfermer.
Oui, bien sûr qu'elle peut enfermer, autant qu'elle libère, bien sûr. Mais c'est toujours là son ambiguïté, c'est-à-dire son intérêt profond. Mais évidemment, quand je disant cela, il faut toujours rajouter que j'aime profondément écrire. Que là, je ne suis pas dans le mythe tout à fait flaubertien, d'ailleurs, du labeur, de la difficulté et de cette hantise-là de la phrase absolument parfaite. Je ne suis pas du tout là-dedans. Mais oui, j'espère un jour écrire un livre à la fin duquel je pourrais me dire oui, comme je disais tout à l'heure, j'ai touché peut-être, j'ai approché l'homme en moi, mais je sais aussi que ce livre-là ne viendra sans doute jamais, mais c'est pour ça aussi que je continue à chercher.
Celle qui ne touche rien dans cette émission, sans doute la connaissez-vous, Mohamed, c'est évidemment la culture et son actualité, moins libérée, délivrée qu'enfermée, écrouée. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 28 septembre ? Orsay fait son cinéma. Le musée d'Orsay à Paris retrace dès aujourd'hui la naissance et l'avènement du 7e art dans une grande et belle expo d'automne baptisée Enfin le cinéma. L'événement réunit près de 300 œuvres, objets et films pour faire dialoguer les premières réalisations filmées avec l'histoire des arts. D'expérimentation visuelle en toile de maître, on y retrouve les frères Lumière, Georges Méliès ou Alice Guy, mis en perspective avec Rodin, Monet ou Bonnard. Action !
Voici des siècles que Paris est connue comme la capitale authentique de la mode féminine.
Chic, chic, c'est la Fashion Week. La semaine de la mode débarque à Paris pour une dizaine de jours mêlant événements digitaux et défilés physiques. La manifestation accueille 97 maisons venues présenter leur ligne printemps-été 2022. Temps fort au programme, un hommage de AZ Factory à son créateur Albert Elbaz, disparu en avril dernier. Le retour sur les podiums de la griffe Saint-Laurent, emmené par Anthony Vaccarello, et plein d'expos, notamment au MAD qui met à l'honneur Thierry Mugler ou à la Cinémathèque qui reçoit Jean-Paul Gaultier, c'est stylé.
Non, ça fait 10 ans qu'il n'est pas revenu à la maison et là, là où je suis le plus fier, c'est quand même moi en tant que Lyonnais. Voilà, ça c'est énorme. Là, pour le coup, il revient vraiment à la maison.
Du beau, du bon, du Bocuse, la France a remporté hier la finale du prestigieux concours culinaire international du Bocuse d'or, créé en 1987 par le grand chef du même nom. Emmené par David Tissot, étoilé au Michelin pour son établissement Saison, près de Lyon, l'équipe tricolore s'est imposée face à une vingtaine de formations concurrentes devant un jury constitué de chefs venus du monde entier. Tous devaient décliner un paleron de bœuf et 3 plats sur le thème de la tomate cerise. Avant ce triomphe, la France ne s'était plus imposée depuis 2013.
De l'art,
De l'art.
J'adore.
Et enfin Noël, avant Noël, le musée des Beaux-Arts de Rouen s'est vu offrir près de 31 tableaux de maîtres légués par les généreux époux Baudou, dont la veuve s'est éteinte en juin dernier. Cette collection privée savamment constituée tout au long de la vie des donateurs inclut notamment 2 Renoirs, 1 Bonnard et 2 Buffets. Mais le clou du spectacle reste une Vierge à l'enfant aux couleurs vives et pastels nimbées de lumière rose signée Chagall. Après avoir été légèrement restaurée, les œuvres sont toutes exposées dans une même salle du musée jusqu'au 8 novembre prochain, c'est trop bien. Et le romancier sénégalais Mohamed Mbougarsar, invité de Boomerang ce matin pour la plus secrète mémoire des hommes, l'histoire d'un écrivain fasciné par un autre écrivain africain surnommé le Rimbaud Nègre, disparu de la vie littéraire après la controverse suscitée par l'un de ses livres paru dans la France des années 30. À travers le destin de ce livre, qu'est-ce que vous nous racontez de la relation complexe en fait entre la France et le continent africain ?
Ce que j'essaie de raconter sur la relation entre ces deux espaces, c'est précisément qu'il y en a un qui est central, qui a été central, qui s'est cru central, qui se croit peut-être encore central, qui est allé dominer, violenter, coloniser un autre espace et qui, parce qu'il est central, refuse parfois quelqu'un qui vient de cette marge-là puisse avoir quelque chose à dire sur les relations, sur lui-même et aussi sur les anciens colonisateurs. Donc c'est une histoire, évidemment, d'une relation coloniale, mais c'est une histoire de complexité. Je ne suis pas du tout dans une sorte de procès fait à la France. J'essaie simplement de montrer comment est-ce que la colonisation a pu aussi, à travers un personnage d'écrivain, c'est-à-dire jusque dans ce qui fonde peut-être l'âme la plus profonde de la France, la littérature, être aussi un espace de domination, d'ambiguïté, d'exclusion, mais aussi d'amour et de relations très fortes.
Méfiez-vous, écrivain et intellectuel africain, de certaines reconnaissances. Il arrivera bien sûr que la France bourgeoise, pour avoir bonne conscience, consacre l'un de vous. Et l'on voit parfois un Africain qui réussit ou qui est érigé en modèle. Mais au fond, vous resterez des étrangers, quelle que soit la valeur de vos œuvres. C'est ce que vous écrivez, page 74. D'où êtes-vous, alors, Mohamed Mbougarsar ?
Ah là, précisément, je peux dire que je suis de la littérature. Pour moi, c'est vraiment le territoire premier, c'est le territoire le plus profond. Et quand je dis de la littérature, ce n'est pas du tout une manière de nier, par exemple, mes origines, parce que mes origines, ma sénégalité, si j'ose ce mot-là, même s'il est très dangereux, risqué, est dans la littérature, profondément. Et mon attachement à la France, ne serait-ce qu'à travers sa littérature, et aussi dans mon écriture. Donc oui, j'appartiens pleinement à la littérature. J'ai d'autres appartenances, d'autres attaches, mais le continent sur lequel je me reconnais, dans lequel je me sens pleinement, entièrement accepté, c'est-à-dire accepté par une bibliothèque, c'est celui de la littérature.
Alors c'est très beau dans votre livre, hein, c'est qu'on surgit justement cet autre espace qui est celui de la littérature dans la plus secrète mémoire des hommes. Mohamed Mougarsar, vous dites que les écrivains ne sont pas des héros politiques ou des idéologues. Qu'est-ce qui pour vous fait la spécificité du regard de l'écrivain précisément ?
J'aime beaucoup Balzac. Tout à l'heure on parlait de Flaubert, j'aime beaucoup Balzac. Et Balzac, tout en étant très agaçant par moments, a toujours défendu l'idée que l'écrivain avait une sorte de seconde vue. Quand vous parlez du regard de l'écrivain, je pense que c'est quelqu'un qui tente précisément, parce qu'il se donne le temps de le faire, et peut-être parce qu'il a un don ou une aptitude pour le faire, de voir au-delà.
Ce qui le libère, ce qui l'affranchit justement ?
Ce qui l'affranchit, parce qu'il a du temps. Ce qui est, quand on a du temps, je pense qu'aujourd'hui, avoir du temps est toujours une manière de s'affranchir d'énormément de pesanteur. Et surtout, cela l'affranchit des apparences, de l'immédiat, de ce qui arrive tout de suite, qui est extrêmement violent et qui ne permet pas d'aller dans la profondeur des choses.
Précisément, vous êtes né au Sénégal, un pays traversé par de forts mouvements de contestation dont votre livre semble d'ailleurs se faire l'écho. Je pense évidemment au soulèvement populaire qui avait été violemment réprimé par le régime en mars dernier. Quand vous regardez le Sénégal aujourd'hui, Mohamed Mougarsar, vous voyez quoi ?
Alors, je vois un pays avec une jeunesse extrêmement dynamique, qui demande qu'on l'écoute davantage, qui demande qu'on arrête de lui mentir. Qui demande à tout le monde, hein. C'est pas simplement au pouvoir, mais même aux autres hommes politiques qui sont dans l'opposition, dans la société civile, qui demande qu'on arrête de lui mentir et qui demande surtout qu'on lui donne une chance à cette jeunesse-là de dire ce qu'elle veut, ce en quoi elle croit et de dire ses rêves. Donc je vois un pays, mais c'est peut-être l'histoire de ce pays et peut-être de tous les pays depuis toujours, un pays extrêmement dynamique, tendu vers quelque chose. On peut s'affliger de certaines situations, mais je pense que c'est surtout un pays encore très jeune par sa population et qui, en cela, est bouillant et va vers quelque chose.
Je vous pose la question parce que dans ce livre, vous ne cessez d'interroger le lien entre politique et littérature. Dans quelle mesure la littérature apporte-t-elle un surplus de vision politique ?
Tout simplement parce que je crois que lire rend toujours plus intelligent.
Vous l'avez toujours su, ça ?
Non, évidemment, j'ai été bête très longtemps avant de me rendre compte que, en réalité, oui, en lisant plus, on était toujours beaucoup plus fin, beaucoup plus intelligent dans sa manière de se rapporter aux autres et même dans sa tenue comme être humain, comme personne. Et ça, je pense qu'immédiatement, politiquement, ça a une incidence. Évidemment, je serais beaucoup plus consoler si les personnes qui président à nos destinées politiques lisaient plus ou plutôt lisaient plus qu'ils ne le prétendent et appliquaient plus de leçons littéraires dans leur manière d'envisager l'action politique.
On en revient évidemment à ce que vous disiez au début de cette émission. Est-ce qu'on écoute les écrivains ? Est-ce que leur parole est prise en compte au même titre que celle des sociologues, des historiens, des philosophes et autres experts ? Faire du livre un lieu de pensée fort, comme vous le disiez dans une tribune parue dans Le Point il y a 4 ans, ça passerait par quoi, Mohamed Mougarsar ?
Ça passerait d'abord par le seul fait de reconnaître que la littérature peut être un lieu de pensée, ce qui n'est pas toujours évident, puisqu'on peut parfois considérer, mais c'est une vision que j'admets, même si je ne la partage pas, que c'est simplement un lieu de divertissement. Mais je pense que la littérature est un lieu de pensée parce qu'il y a quelque chose, comme disait le grand romancier autrichien Hermann Broch, qu'elle seule peut dire à sa manière. Il y a une vérité dans le monde que la littérature seule peut dire et qu'aucune autre forme de discipline, de genre, de pensée peut exprimer. Donc rien que pour cela, la littérature doit aussi être un lieu de pensée fort et de réflexion sur le monde.
On va reparler de littérature de son importance, de sa vérité, de pensée aussi, mais de voix, juste après celle de votre compatriote Ismaël Lô, Tadjabone, ce titre de 1992 qui, souvenez-vous, sublimait les premières images de Pedro Almodovar dans Tout sur ma mère. Vous êtes sur France Inter avec Mohamed Mbougarsar, on est mardi matin, et que vous soyez dans votre lit, dans votre voiture, penché sur la table du petit déjeuner, sous la douche, vous écoutez Boomang, évidemment.
Mita tayobon, teñi tayobon. Mita tayobon, teñi tayobon. Abdu ujambar, nyari malaikala. Hawe Esiko danu sisero momu munila degam julinga momu munila degam wonga. Dano sisero momu munila degam julinga momu munila degam wonga nita jabon denita jabon.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
Alors il est habité hein, par la littérature et par la pensée. Chez lui, il n'y a pas un mot de travers, pas une hésitation, tout est à la fois très complexe et très concis, le regard un brin circonspect, généreux, précis, une façon de se tenir qui intime le respect. Il a la petite trentaine, l'air tout juste sorti de l'adolescence, très grand, et pourtant il a déjà l'autorité d'un ancien, tout en blanc ce matin, l'écrivain Mohamed Mbougarsar, invité de Boomerang pour La plus secrète mémoire des hommes, ce livre qui se présente comme une enquête sur les traces d'un écrivain disparu et où se mêlent une multitude de voix et de témoignages qui viennent éclairer le mystère de cette disparition. Qu'est-ce qui se joue pour vous dans cette pluralité de points de vue, justement dans cette polyphonie que vous orchestrez?
Je crois que dans ce roman, mais c'est aussi peut-être l'histoire du roman comme genre, ce qui est toujours intéressant, c'est qu'on nous montre que la vérité est toujours plurielle et que plusieurs personnages la portent, que plusieurs voix la portent. Pour moi, c'est vraiment tout l'enjeu d'une polyphonie, d'une structure polyphonique, c'est de montrer dans le roman, dans l'espace du roman, que dans la vie, plusieurs regards se croisent.
Que le monde est complexe.
Que le monde est complexe et que c'est de ce croisement-là que peut apparaître ce qu'on pourrait appeler un sens ou peut-être une vérité. Dans le roman, plus précisément, ce qui me semblait intéressant, c'était de dire aussi que raconter une vie ou chercher la vérité d'une vie, en l'occurrence celle de cet écrivain Illiman, c'est toujours se confronter à différents témoignages qui se croisent, qui se contredisent parfois et qui finissent par dessiner un portrait, il est vrai, mais un portrait absolument brisé ou éclaté en mille morceaux dans lequel l'unité serait paradoxalement fragmentaire.
Écrire, ce serait alors faire exister d'autres voix que la sienne. Je pense évidemment à votre roman « Silence du cœur » sur le drame des migrants méditerranéens, mais aussi de « Purs hommes » sur la situation des homosexuels au Sénégal. Dans votre pratique de l'écriture, il s'agit aussi de faire exister d'autres voix et d'autres vies que la vôtre.
Oui, c'est en tout cas donner à voir ces vies-là dans leur complexité et dans la manière par laquelle, à l'intérieur d'une société qui parfois peut leur refuser une voix, précisément, trouve d'autres manières de s'exprimer. Et c'est ce qui me semble toujours intéressant, c'est de rappeler, même dans des situations où on a l'impression que c'est une seule voix qui compte, qu'il y a d'autres voix qui tentent de s'exprimer, dans l'ombre peut-être, mais qui s'expriment tout de même. Et il me semble toujours intéressant, quel que soit le sujet pris, la situation prise, de pluraliser les perspectives, de pluraliser les approches. Parce que c'est toujours en les croisant qu'on obtient quelque chose qui se rapproche de plus d'une vérité.
Je prends l'exemple, le mode de la littérature, parce qu'elle est partout dans votre livre, notamment la dimension passionnelle et érotique de la littérature et de l'écriture. Mohamed Mbougarsar, en quoi l'écriture est-elle forcément liée au désir pour vous?
Parce que je pense que c'est la même énergie. C'est la même énergie qui se dégage, en tout cas qui court du désir charnel ou même du désir de vie et qui irrigue le désir de littérature. C'est absolument pour moi la même énergie. Il faut d'abord avoir le désir du monde avant, enfin pas avant, pour avoir le désir de raconter le monde.
Le désir,
moi, c'est la même énergie.
Le désir d'appartenir à une humanité aussi, à un monde qui vous dépasse.
Le désir en tout cas de dire que nous habitons la même humanité, malgré les différences. Voilà. C'est le désir de dire une condition humaine, d'aller au fond de cette condition humaine et de rappeler en quoi nous sommes tous liés, en quoi nous sommes tous pris dans la même toile d'araignée de la condition humaine.
C'est un texte qui, d'une certaine façon, répond à cette question que vous nous avez écrite ce matin, un texte que j'aimerais que vous nous lisiez pour terminer cette émission, si vous le voulez bien.
Nous voici donc lancés comme des dés de cristal sur le plateau en fer d'une année dangereusement politique. Tintement, roulement, un peu de casse, mais les chiffres du sort apparaissent finalement. 666, jackpot infernal, et c'est tout sauf le hasard. Nous sommes sous le signe de la bête, ou plutôt, mais peut-être est-ce la même chose, sous la menace d'un abêtissement. Moi entendre ici dans son double sens le devenir idiot et le devenir bestial. Nous entendrons, dans les prochains mois, et de tous les bords, des phrases qui nous troueront, comme le feraient des obus. Des phrases si ensanglantées, indignes, meurtrières, qu'elles pourraient nous conduire à régner une langue si inhumaine, ou si humaine, au contraire, pour la remplacer par la suprême élégance du grognement préhistorique. Il semblerait que la violence soit devenue notre langue la plus audible, et qu'avant que de l'être par le cœur ou le geste, ce soit par la langue que les hommes sont sauvages. Alors essayons, la peur, c'est-à-dire le courage au ventre, de trouver d'autres phrases, d'exhumer des phrases de soi sous les phrases de fer, de nous enfoncer dans l'ombre des phrases à la recherche des phrases d'ombre, celles qui protègent du feu, du temps d'abord y aller pour les en tirer ou les y forger. Que la violence soit devenue la langue la plus audible ne signifie pas qu'elle doive demeurer la plus entendable. Ces temps de grâce 2666 promet l'enfer. Promettons-lui en retour le seul enfer où il fasse bon se damner, celui de la littérature. Je vous parle en lecteur d'abord, en écrivant ensuite, et je ne parle jamais que de là, et je ne parle jamais que de ça. La littérature est bien un enfer, celui de la phrase de vérité à chercher dans la lecture ou l'écriture pour approcher et dire l'essentiel de notre commune condition humaine. Alors cherchez vos phrases, votre justesse, votre noblesse. Je traque les miennes au milieu des enfers, je croise beaucoup de bêtes, je suis une bête comme nous tous, comme vous, Augustin Trapenard. Mais rappelons-nous que notre bêtise n'est pas seulement sauvage et que nous sommes aussi, fondamentalement, des animaux poétique.
Magnifique, Mohamed Mbougarsar. Comment trouver cette langue humaine? Et est-ce que tout le monde peut y accéder?
Je pense que tout le monde peut y accéder parce que c'est une langue existentielle, métaphysique, et qu'il suffit simplement d'avoir une attention profonde pour les autres, une curiosité pour les autres, pour s'enrichir soi-même, évidemment. Et cette langue dépasse la simple question de la linguistique. Je pense que c'est une langue qui est vraiment intérieure et que tout le monde possède et que tout le monde peut trouver à condition simplement de se donner le temps et d'en avoir le désir profond.
Et jamais elle ne sera ensanglantée, indigne ou meurtrière, comme vous l'écrivez?
Elle peut l'être, évidemment. C'est parfois, paradoxalement, même le chemin avant d'arriver à sa poésie la plus profonde. Ce qui me semble toujours important, c'est que même dans les moments où elle semble ensanglantée, qu'on garde à l'esprit qu'elle peut aussi être une langue de poésie, c'est-à-dire de création, qui peut façonner un imaginaire toujours plus lumineux. Je ne nie pas du tout l'ombre, je dis simplement que parfois, il faut arriver à la lumière, quitte à passer par l'ombre. C'est toujours ce qui me semble important.
Cette langue qui nous élève. Merci Mohamed Mbougarsar d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que La plus secrète mémoire des hommes est publiée chez Philippe Ray en coédition avec la maison d'édition sénégalaise Jim San. C'est un grand livre que l'on espère vraiment voir récompensé dans quelques semaines. Tout de suite, les médias. Merci. Sonia De Villers et son Instant M, juste après ça.
Compagnons des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit.
Bonne nuit.
Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais, j'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du caniche. C'est une musique qui plaît.
Et là, il est nous écouter.
Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours. Compagnons des mauvais jours, que vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. Quand on joue du chien à poil vif, il faut ménager son archet. Alors je m'en vais, les gens ne viennent pas au concert pour entendre hurler à la mort. Et cette chanson de la Fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnons des mauvais jours, que vous soyez une bonne nuit. Dormez, rêvez, moi je prends ma casquette.
On ne mérite pas feu Chatterton. Compagnon sur France Inter, il est 9h40 et tout de suite c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers, l'Instant
Mais
M.
Mais si, on mérite feu
Chatterton. Ah non, on ne mérite jamais feu Chatterton tellement c'est bien.
Bon bah salut Augustin,
salut,
à demain.
À demain.